tête. Voilà, Michel, je voulais vous demander simplement, au cours de votre carrière depuis 1976, vous avez connu des fortunes diverses avec l'Argentine, l'Espagne, le championnat d'Europe. Quel est le plus grand souvenir et quel est l'enseignement que vous tirez de cette superbe aventure avec l'équipe de France?
Heureusement, les souvenirs s'accumulent et surtout les grandes joies s'accumulent. On oublie plus facilement nos difficultés et le temps efface tout cela. Mais je ne sais pas faire une hiérarchie dans les bonheurs et dans les joies. Et je crois que le principal enseignement qu'on peut avoir d'une carrière de 8 ans et demi, c'est qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et surtout il faut un consensus pour réaliser quelque chose.
Alors... Retour sur cette deuxième partie sur Michel Hidalgo, toujours en compagnie de mes acolytes préférés, notre roi du Mont Ventoux, Manu. Salut Manu.
Salut tout le monde.
Notre judoka en chef, Fabien.
Bonjour à tous.
Et notre DJ qui tape encore plus fort qu'un joueur de Subiteo, Francky.
Salut.
Salut les gars, bah écoutez, la dernière fois on a fini le podcast sur la Coupe du Monde 78. Et pour être tout à fait précis sur l'histoire des maillots rayés de la France face à la Hongrie, j'ai fait une petite coquille lors du dernier podcast. Et je voulais revenir dessus. Donc il y avait bien un jeu de maillot qui est parti en France, qui est le maillot bleu. Mais l'intendant a mal interprété le règlement, si bien que c'était à la France de changer ses maillots. Pas possible de jouer en blanc parce que la Hongrie jouait en blanc, ni en rouge parce que le gardien de la Hongrie a fait son petit caca nerveux en disant « Moi, en rouge, c'est pareil que mon maillot, donc je veux pas qu'il joue en rouge ». Bref, c'est bien le maillot du club des pêcheurs du FC Kimberley, ça ne s'invente pas, qui a servi à l'équipe de France. Là, il faudrait qu'on demande à Cyril Guénaud, notre copain qu'on embrasse, combien ça pourrait coûter, ça, aux enchères, un maillot du FC Kimberley, d'une équipe de pêcheurs. Ça pourrait être pas mal, ça.
Ouais. Hein, voilà, la pêche.
Ça ferait collector.
Ouais, ça pourrait hameçonner quelques clients, j'ai l'impression. Ouais, elle était un peu facile. Alors, forcément, on a parlé des débuts de Michel Hidalgo, on a parlé de l'influence avec Georges Boulogne, avec Kovacs, on a aussi parlé de sa première qualification en Coupe du Monde. C'est la France qui se remet à gagner. Et puis là, il y a cette qualification, en tout cas ces matchs qualificatifs pour l'Euro 80. Mais ça se passe pas aussi bien qu'on aurait voulu le penser, hein, Fabien.
Ouais, alors en fait, pas aussi bien, je suis pas forcément d'accord, parce que quand on regarde un petit peu les stats et les matchs, moi je trouve que c'est pas si mal que ça.
Ouais.
Alors je vais remettre dans le contexte de l'époque aussi, parce qu'en fait,
remets.
Tu as 8 équipes qui se qualifient. Donc ça veut dire que tu as les premiers de chaque poule qui se qualifient, mais tu as que 8 équipes. Donc ce qui veut dire que si tu compares à 2016, par exemple, à l'Euro 2016, c'est 24 équipes. Donc autant te dire que là tu as intérêt d'être dans les bons pour. Et en plus, on était dans le chapeau 2. Donc on est dans la poule de la Tchécoslovaquie, et la Tchécoslovaquie championne.
C'est un client à l'époque.
Ah bah ouais.
Très très, très bon client, c'est le champion, c'est le tenant du titre de la compétition puisqu'il gagne l'Euro 76.
Voilà.
Bon, ce que t'es en train de dire, Fabien, c'est que finalement dans ces qualificatifs, t'as pas le droit à l'erreur. Et que en fait finalement l'équipe de France a fait mieux que se défendre.
Bah oui, parce qu'en fait, quand tu regardes le truc, alors, ils ont un point d'écart à la fin avec la Tchécoslovaquie. Alors, en fait, ils perdent leur match en Tchécoslovaquie, mais ils gagnent le leur. Après, au retour, ils menaient même 2-0, donc ils gagnent 2-1. Donc, ils font un super match, ils gagnent la Tchécoslovaquie. Et en fait, c'est le match nul contre la Suède, au tout début, en fait, qui va les pénaliser.
D'accord, c'est ça qui nous met dedans, en fait.
Voilà, exactement. Quand tu regardes les 2-0, le 2-0 qu'on prend en Tchécoslovaquie, il y a un but énorme de Stambar, hein, qui met un boulet de canon de 25 mètres.
Ouais.
C'est énorme. Sincèrement, je pense qu'il peut la refaire 10 fois, il la remettra jamais. Et puis, il y a un penalty de Panenka. Donc, c'est pas. Enfin, pour moi, c'était de très beaux matchs, et ils ont vraiment joué leur va-tout. Et je pense que c'est ça qui a construit une équipe, une belle équipe.
À l'époque, t'es avec le premier qui était qualifié, donc.
Oui, ah c'est oui. Ça.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Bah, y a un facteur aussi, Fabien, que tu nommes pas, mais qui pour moi était très important à l'époque, c'est que la France fait 6 matchs, hein, c'est ça ? Et il y a quand même une petite tuilasse là, qui leur tombe dessus, c'est que Michel Platini ne fait que 4 matchs sur 6. Michel Platini, qui est quand même, on va dire, le meilleur joueur de l'équipe de France, hein. Il a déjà en 78, il s'est distingué, il est dans les 3 premiers du Ballon d'Or. Ça reste quand même un joueur prometteur de devenir. Il va connaître sa première blessure, sa première grave blessure, et c'est vrai qu'il va être éloigné des terrains pendant un certain nombre de temps. Et enfin, une équipe de France sans Platini, c'est une équipe qui tousse, hein. Et on a l'impression, quand on voit aussi les compositions d'équipe, parce que nous, évidemment, c'était une époque qu'on n'a pas énormément connue, hein, clairement. Oui. On avait 4 ans, donc on avait autre chose à faire à ce moment-là.
On faisait
des lance-pierres ou on mangeait des malabars. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe, elle a beaucoup changé. Elle changeait beaucoup. C'est-à-dire que, encore une fois, Hidalgo, il essayait d'imprimer sa patte, hein.
Ouais, mais Yolan, ça veut dire aussi que Hidalgo construisait déjà l'équipe autour de Platini ?
Bien sûr, bien sûr. Il construisait l'équipe autour de Platini. On a souvent dit, est-ce que l'équipe de France serait la même s'il n'y avait pas eu Platini ? La réponse est non. Bien sûr que Platini avait une influence importante, parce que quand on regarde cette équipe de France, elle n'avait pas de leader. Elle n'avait pas un joueur qui était capable de pouvoir transcender le groupe, le collectif. Mais après, je dirais que Michel Hidalgo, on voit bien qu'il était encore dans une phase de recherche. Il y a quelque chose qui trompe pas, c'est le gardien de but. C'était Dominique Dropsic, qui est un excellent gardien. Moi, j'ai adoré ce gardien, gardien des Girondins de Bordeaux. Mais Dominique Dropsy, il vient faire la campagne des éliminatoires de 81. On a eu Bertrand Demann qui a fait la Coupe du Monde. Il y avait Baratelli qui de temps en temps intervenait. On a eu Tempet. On a eu Pierre Iquillard. On a eu Ray. Il y a eu énormément de gardiens. Et on a eu aussi le sentiment que Michel Hidalgo, il a eu du mal finalement à trouver une assise sur certains postes. Il a continué à se chercher au fil des compétitions, hein. D'ailleurs, on peut en attester, Manu, si tu nous parles de la compétition, de la qualification pour la Coupe du Monde 82. Là aussi, on se rend compte que c'est en mutation.
Ça n'a pas été simple, les qualifs pour le Mondial 82.
Ouais.
Puisque, ils sont dans un groupe, pour le coup, à la différence de l'Euro, il y en a 2 qui se qualifient. D'accord, mais ils sont dans un groupe avec la Belgique, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et Chypre. Et bon, c'est pas top jusqu'à ce fameux 18 novembre 1981 où Michel Hidalgo, il va un petit peu jouer le tout pour le tout pour se qualifier puisqu'il doit battre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils sont quand même vice-champions du monde en titre. D'accord,
ouais, bien sûr.
Par rapport au mondial argentin. Et puis Hidalgo à ce moment-là, c'est là qu'il va commencer à faire jouer 3-10, d'accord, 3 attaquants et aucun milieu défensif, puisqu'il doit absolument gagner contre les Pays-Bas, chose qu'il va faire, même s'il y aura un autre match contre Chypre, mais il va pouvoir enchaîner, puisque sur ce match-là, ça passe ou ça casse.
Oui, un match très séduisant en plus, parce que c'est un match finalement de qualification, mais on a eu l'occasion à plusieurs reprises de revoir ce match, notamment sur l'équipe 21, qui, je dois leur dire merci, diffuse des matchs souvent vintage. Alors moi, je me régale en revoyant ces matchs-là et souvent les commentaires, je trouve ça super. Mais ce match-là, moi, je me suis régalé. J'ai vraiment vu un football champagne, dynamique. On a l'impression ça explose. Il y a des photos de partout. C'est un match qui est très, très festif. C'est un peu l'équipe de France telle qu'on se la représentait déjà à l'époque.
Ça fait rêver. 3-10, 3 attaquants et pas de milieu défensif. Fallait oser.
Ouais, c'est intéressant parce que moi j'ai longtemps cru que en fait il alignait les meilleurs joueurs et advienne que pourra, alors qu'en fait il aligne 3-10 et 3 attaquants en se disant j'ai des joueurs techniques et si on confisque le ballon on courra pas après, donc il est déjà c'est un peu un visionnaire, un peu la Guardiola ou à la Klopp aujourd'hui, c'est si on conserve le ballon y a pas de raison qu'on court, quoi.
Et d'ailleurs, dans ce match-là, tu crois pas si bien dire, parce que la conservation du ballon en milieu de terrain, c'est vraiment un régal. Techniquement, on voit de très très belles choses, c'est-à-dire que l'audace de Michel Hidalgo, elle paye. Mais quand je parle d'audace de Michel Hidalgo, Manu, je crois pas me tromper en me disant que s'il avait vraiment le couteau sous la gorge pour ce match-là.
Ah bah, c'était monsieur 3%, puisque 3% des Français voulaient qu'il reste à la tête de l'équipe de France, donc oui, il avait le couteau sous la gorge.
Et je pense c'est un peu plus que le Parti communiste quand même. Hein.
Et je pense que s'il se qualifie pas, s'il se qualifie pas, son bail au sein de la Fédé s'arrête là.
Ouais. Mais
Juste un truc, Manu, c'est quand tu dis 3%, c'est seulement 3% des personnes voulaient qu'il reste.
Un sondage, 3% des Français veulent qu'il reste.
D'accord.
Voilà, à la tête de l'équipe de France, donc ça fait. Ah ouais.
On sait que les Français décident pas, hein, mais bon.
Bah, Manu, je sais que tu t'es occupé un petit peu de travailler sur cette Coupe du Monde 82, sur ses qualifications. Moi, je me suis aussi, quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé le classement pour les qualifications de 82. C'est fou, ça se joue vraiment sur un mouchoir de poche.
Alors, ça joue pas à grand chose, mais du coup, c'est la Belgique qui est qualifiée, qui finit premier du groupe. Mm-hmm. La France, l'Irlande, les Pays-Bas finissent quatrième. Et Chypre en dernier.
Donc mais on se rend pas compte parce que à l'époque la Belgique c'est un vrai client.
Ah oui, c'est une grosse équipe.
C'est une grosse équipe, hein. On a des Kullmans, des Gerrits que
oui.
Les Frankie Vercetteren, Jean-Marie Favre dans les buts. On a aussi, il faut le dire et qu'on se le dise, les Pays-Bas, même si c'est pas les Pays-Bas de 78, ça reste quand même une équipe avec des joueurs redoutables. On a quelques noms notoires dans cette équipe. Et puis l'Irlande, c'est toujours compliqué parce que c'est souvent des joueurs qui évoluent dans le championnat d'Angleterre.
Kick and Rush. Pas, à l'époque, c'était le Kick and Rush. Alors,
ouais, ils sont valeureux.
C'est ça. Alors, il y avait Chypre qui éventuellement était un peu celui contre qui tu pouvais parfaire ton goal average parce que c'était souvent là que tu pouvais mettre une petite volée à ton adversaire, mais c'était un groupe qui était extrêmement compliqué. Et donc là, la France se qualifie pour la Coupe du Monde 82 en Espagne avec on se souvient tous cette orange là comme mascotte, hein, parce qu'on a tous eu cette petite orange là sur nos sacs.
Et vous vous rappelez de la musique?
Ah, je me souviens.
Viva l'Espagne. Moi, je me rappelle que de ça.
Ah, je suis pas sûr que ça soit ça la musique.
Non, ça c'est quand t'étais en boîte à CGS.
Voilà, c'est ça. On a toujours des bons souvenirs au FC Vintage.
Alors, la formule de la Coupe du Monde à l'époque, elle est un petit peu différente d'aujourd'hui.
Ouais, elle est un peu tordue dans la formule.
Voilà. Ouais, il y a une première partie, donc une poule de 4. D'accord. Donc, effectivement, ils perdent le match d'entrée contre l'Angleterre, 3-1.
Il y a un petit événement d'ailleurs dans ce match.
Oui.
Un petit événement, puisqu'en fait, finalement.
Le but le plus rapide. Lacombe,
voilà, avait marqué le but le plus rapide de l'histoire en 78 contre les Italiens. Il est donc battu par Brian Robson, qui marque le but le plus rapide de l'histoire contre la France. Pas de chance, hein, ça aura duré 4 ans. Et puis ce record a été battu également, crois, par Hakan Şükür.
Ouais, au Mondial 2002.
On est un peu moins vintage, mais quand même, on veut tout être précis dans ce podcast, hein. Disons-le.
Donc il commence mal. Ils enchaînent avec une victoire sur le Koweït 4-1.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant, Manu, si tu permets, sur ce match face à l'Angleterre, parce que j'ai quand même le sentiment que cette défaite-là, elle va avoir des conséquences qui vont être assez lourdes. Alors plutôt dans le bon sens, même si ça aurait pu tourner vraiment chocolat.
Si on regarde les résultats, certainement, puisqu'ils ont commencé par une défaite et après ils ont enchaîné juste un match nul contre la Tchécoslovaquie dans cette même phase de poule. Donc oui, ça a certainement fédéré et fondé un groupe qui fait que du coup ils se qualifient pour le deuxième tour. Donc c'est une repoule de 3 là. Et du coup ils gagnent contre l'Autriche 1-0 et contre l'Irlande du Nord 4-1. Donc certainement que ça a fédéré.
Il me semble que c'est un super but. C'est pas un but sur coup franc de Gengini.
Il en met deux pendant le tournoi. Alors je me souviens plus. Il en met deux pendant le tournoi. Ça c'est sûr.
Ouais. Le match face à l'Angleterre, ce qui pour moi est fondamental, c'est finalement le leadership de Platini. C'est-à-dire que Platini à ce moment-là, lors de cette défaite, il va vraiment pousser la note, comme on dit, il va vraiment pousser une gueulante, et finalement il va demander à ses camarades de pas faire de la figuration, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dans cette Coupe du Monde? Vous avez peut-être écouté le reportage de Michel Platini sur Canal, où il parle de la Coupe du Monde 78 et où il dit on n'était pas très motivés pour cette compétition. Mais là, j'ai l'impression qu'en 82, lui, Michel Platini, il comprend qu'il va prendre une autre dimension. Il va en plus partir en Italie et véritablement, il va prendre ses responsabilités et il va taper du poing sur la table. Et je pense que là, Hidalgo va l'écouter puisque il y a quand même quelques joueurs qui vont sauter après cette défaite, dont notamment Jean-François Larios, et on reviendra pas sur le sujet parce que tout le monde le connaît, puisque Larios en a parlé dans son livre, mais il y a aussi René Girard. Donc on va dire que cette défaite face aux Anglais, elle va permettre justement à l'équipe de France de poser des bases et en tout cas d'avoir un football un peu plus audacieux, un peu plus panache.
Et du coup, ça les emmène en demi-finale contre l'Allemagne. Le fameux match de 82 contre l'Allemagne.
C'est là où Hidalgo était aussi très fort, c'est que il faisait son équipe et ça permettait de faire rentrer tous les joueurs. Enfin, il arrivait à faire une cohésion d'équipe. Il avait vraiment un esprit d'équipe. Lui, il était toujours par rapport à son équipe. Il voulait qu'il se fasse plaisir. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il a réussi à faire gagner quelques matchs.
Ouais, et puis il a aussi géré des égos, parce qu'il y a quand même des vedettes hein, dans l'équipe.
Ah oui.
Hein. C'est pas quand on parle de Bossis, Trésor, Platini, Gires, Tigana. Enfin, c'est des joueurs qui ont une grosse cote en Europe, même s'ils jouent même s'ils jouent dans le championnat de France.
Oui, effectivement. Après, puisqu'on parlait de la patte Michel Hidalgo. Quand on a refait les revues d'équipe, on a vu aussi que face à l'Irlande du Nord, où ils ont fait un super bon match, ils gagnent 4-1, avec un but d'Alain Giresse de la tête, hein, me semble-t-il. On a une équipe qui commence à se dessiner avec ce fameux milieu de terrain carré magique. C'est-à-dire que là, pour le coup, le 4-1 face à l'Irlande, il veut dire quelque chose, parce que 4-1, c'est un gros score. Et en plus de ça, l'Irlande du Nord, c'est une belle équipe hein, à l'époque. Alors justement, tiens, il y a aussi une particularité, tiens. Il y a une particularité dans l'équipe d'Irlande du Nord.
Ah,
vous la connaissez? L'Irlande du Nord va aligner le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du Monde.
Ah.
Norman Whiteside, qui a donc joué à Manchester United. Il a 17 ans et quelques. Il est encore plus jeune que Pelé à l'époque.
C'est pas Paganelli,
non.
Alors tu sais que le Hidalgo, pour constituer son fameux carré magique, il s'appuie sur la fabuleuse équipe du Brésil de 70, où le sélectionneur aligne 4 numéros 10, Pelé, Tostao, Gerson et Rivenilo. Et ça c'est quelque chose qui avait vraiment marqué Michel Hidalgo, la capacité à aligner des créateurs à beaucoup de créateurs dans son milieu de terrain, quoi.
J'ai intérêt à avoir une grosse défense après.
C'est très intéressant ce que tu dis là, mais tu vois, je l'ignorais sur le volet du Brésil. Mais il y a quelque temps, je me suis refait la finale de Brésil-Italie 70,
ouais.
Et j'ai vu Gerson en milieu de terrain. Je t'en avais parlé, Francky d'ailleurs.
Je me souviens.
Mais je me suis régalé. Je me suis dit, mais ce type, c'est pas possible. J'avais l'impression que il avait fait ça toute sa vie. En fait, il avait pas vraiment un poste de numéro 10 dans ce match. C'était plus un espèce de relayeur, un peu régulateur de jeu, un peu un métronome. Mais un régal, un pied gauche. Mais moi, vraiment, d'ailleurs, il marque un but en finale. Et ouais, je suis pas surpris que Michel Hidalgo ait pris cet exemple-là, parce que vraisemblablement, c'est peut-être l'une des plus belles équipes de l'histoire de la Coupe du Monde, l'équipe de 70.
Oui, ouais, c'est sûr.
c'est quand même, il y avait quand même des clients. Alors, Manu, on sait que les histoires de foot finissent mal en général,
en général
surtout
tout
quand
à fait,
on
ouais.
joue contre l'Allemagne. Comme dirait Gary Lineker,
non, c'était avant.
Le foot est un sport qui a été inventé par les Anglais, mais à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Aïe, aïe, aïe.
Ouais, non, non. Bah, pareil, en ayant re-regardé le match, c'est, tu t'aperçois que quand même les Allemands, au-delà de leur qualité de footballeur, ils ont quand même, ils sont bien rentrés dans l'art aux Français. Ça a été bien, bien rugueux. Et du coup, voilà, il y a Batiston qui se fait démonter comme c'est pas permis. J'ai même appris que Franz Beckenbauer avait dit aux Allemands, si vous voulez battre cette belle équipe française, il faut leur rentrer dedans. Faut leur mettre le pied, comme on dirait, comme on dit.
Et ben, tu vois, il me déçoit, Franz.
Non,
bah,
voilà.
Et ben, il me déçoit, Franz.
Ah, c'était le jeu allemand, hein.
Il a obtenu ce qu'il voulait, puisque finalement, voilà. Et du coup, voilà. Maintenant, est-ce que, effectivement, le tort, on peut remettre le tort sur Michel Hidalgo de pas avoir su gérer le résultat au moment où il mène 3-1, ou d'avoir fait d'autres changements histoire de blinder le résultat? Je sais pas. Faut voir comment ça se passe, mais.
Moi, je pense que c'est vrai que c'est compliqué, gérer un match avec enfin, on va dire le peu d'expérience qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont peut-être... parce qu'à un moment, quand t'es à 3-1, je pense qu'ils se sont vus gagner. Et peut-être qu'ils se sont dit, on peut en mettre encore un autre et puis on va se faire plaisir. Parce que c'était un peu la philosophie d'Hidalgo, c'était de dire, faites-vous plaisir, tout ça. Et je pense que là, oui, ils ont peut-être manqué d'un peu de maturité en disant, bon, bah les gars, maintenant, hop, on bloque tout, on a mis 2 buts... Je pense pas qu'ils pensaient qu'un jour ils reviendraient.
C'est intéressant ce que tu dis, Fabien, mais ils ont posé la question une fois à Michel Hidalgo, et Michel Hidalgo a dit, mais pourquoi j'ai pas aligné une équipe défensive? Tout simplement parce que j'avais une équipe qui ne savait pas défendre.
Oui, ouais, hein.
C'est ça.
On était dans une logique offensive, c'était notre manière, c'était notre marque de fabrique. J'ai entendu, alors c'est drôle ça, parce que je l'avais entendu en... une fois, c'était Marius Trésor dans une émission locale qui parlait du match de France 82. Et Marius Trésor, lui, disait, je pense quand même malgré tout que l'erreur de Michel Hidalgo, c'est de pas avoir fait rentrer René Girard. Je pense qu'un René Girard aurait fait beaucoup de bien dans ce match. Il y a Jean-François Larios qui, dans sa biographie, a aussi dit, moi, quand j'ai vu ce match, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer et de me faire de l'allemand.
Parce que sur ce match-là, Lopez, il joue quand même milieu de terrain.
C'est ça.
Pendant 1 heure.
C'est ça. Et c'est ce qu'a reproché.
De mémoire, c'était pas un milieu, lui. De mémoire, c'était un défenseur. Voilà,
tout à fait.
Ouais.
Exactement. Il va pas forcément donner le meilleur de lui-même. Enfin, il fait un match correct, mais c'est pas vraiment son poste de prédilection. On aurait pu penser à Girard ou à Larios. Mais non, effectivement, il va avoir un Christian Lopez, et Christian Lopez, c'est peut-être pas forcément le rôle qui était le plus facile pour lui.
Ouais, non, moi j'ai vu ça, qu'effectivement, il lui avait été reproché d'avoir mis Lopez milieu de terrain, alors que, tu vois, il y avait Girard. Bon, à l'époque, l'article de presse que j'ai lu faisait référence à Jean Vion, qui était plus à même à jouer milieu de terrain que Lopez.
Ouais, Jean Vion, il avait cette capacité à pouvoir jouer un peu partout. C'est un joueur qui était très intéressant parce qu'il était très rapide et il avait une qualité d'anticipation qui était très très forte. Je trouve que c'est l'un de nos Français qui est le plus sous-coté parce que moi je trouvais que c'était un joueur assez magnifique, mais vous savez pourquoi. Des verres, on se refait pas.
Ouais, par contre, il s'est jamais remis du courant d'air qu'il a pris contre Blokhin, hein, en 76.
Non, là, c'est pas vrai parce que Blokhin a fait une photo avec lui en lui disant, grand défenseur, tu es, grand défenseur. Manu, défaite face aux Allemands. Les Français sont au plus bas, mais le public, on va dire, a eu cet amour pour cette équipe de France qui est passée si près. Honnêtement, si on avait été en finale, est-ce qu'on méritait d'aller en finale? Est-ce qu'on aurait pu la gagner, cette finale?
Alors, mériter d'aller en finale, il me semble que oui, parce que même si tu gagnes pas, mais tu voilà, t'as proposé quand même un peu de jeu avec le fait de jouer comme ils ont joué là. Après, effectivement, est-ce que t'étais meilleur que l'Italie? Je crois pas. Dans l'autre poule, quand nous la deuxième oui. poule, c'est l'Autriche.
C'est important que Nord. C'est important que tu soulignes l'autre poule. Ouais.
L'autre poule, il y a l'Italie, le Brésil. Et le troisième m'échappe.
L'Argentine.
L'Argentine. Donc du coup, on a voilà. Est-ce que s'il y avait une des deux autres équipes serait tombée dans le pool de la France, et la France aurait pu aller en demi-finale. Bon, effectivement, avec d'ici, moi je coupe du bois, mais voilà.
Ouais, Pierre, sachant que en prolongation comme ça, à la fin, tir au but, tu au niveau cardio, enfin au niveau musculaire, tu morfles et après derrière c'est compliqué.
Sur le match, pour moi, il mérite d'aller en finale. Il y a pas de souci, de le gagner. Bon après voilà.
Après, tu parles de match de mythologie, l'Italie-Brésil. Ouais, je me suis fait ce match là il y a pas longtemps aussi. C'est un régal. Mais même l'Italie, la manière dont elle joue. Ça déjoue aussi un peu tous nos préjugés sur l'Italie, parce que c'est un match fantastique, et d'ailleurs Paolo Rossi fait une prestation qui est absolument remarquable, hein. Il a, comme dirait Jean-Michel Larquet, sur ce match-là, il a trempé les pieds dans le bénitier, hein. C'est vraiment un gros match. Alors, Michel Hidalgo, il récupère des joueurs qui sont en larmes. Il dit, ils sont allés sur le terrain, c'était des hommes. Il dit avec sa voix, ils y sont allés, c'était des hommes. Ils sont revenus, c'était des enfants. Ils pleuraient. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que les joueurs étaient en larmes. Beaucoup ont dit à Michel Hidalgo, c'est terminé, on arrête là-dessus. Pour certains, ils étaient jeunes, hein. Certains étaient au milieu de leur carrière. Hein. Ils ont dit non, nous on va pas plus loin. Et c'est là où Michel Hidalgo était très fort, c'est qu'il a réussi à convaincre certains à pouvoir vivre cette magnifique aventure que celle de l'Euro 84. Et l'Euro 84, finalement, bah, c'est une aventure qui démarre bien, puisqu'on est qualifié d'office, hein, c'est ça, Francky ?
Ouais, on est qualifié d'office, l'Euro a lieu en France. Une chose importante à souligner, c'est que l'année d'avant, Yannick Noah a gagné Roland-Garros, et mine de rien, dans la mentalité française, ça change des choses, parce qu'on se dit, ça y est, enfin, on gagne des titres internationaux, ce qui a rarement été le cas dans l'histoire du sport français. Donc on est, y a deux poules, et pour la première fois sur cet Euro, y aura des demi-finales, c'est-à-dire que y aura deux qualifiés par poule. La France est dans la poule du Danemark, de la Belgique et de la Yougoslavie. Pour moi, mais c'est que mon humble avis, c'est qu'on arrive au sommet de cette équipe. Cette équipe, elle a tout, mais vraiment tout, et c'est pas pour rien qu'on les nomme les Brésiliens de l'Europe. C'est-à-dire que à chaque match, ils vont sortir une facette de jeu qu'on leur connaissait pas. Contre le Danemark, ils gagnent 1-0 et se retrouvent face à une équipe très rugueuse. Ils répondent physiquement à ce match et ils finissent par gagner. Contre la Belgique, c'est la technique. Ils les explosent, hein. Ils gagnent 5-0 Platini, mais un triplé, et en plus un vrai triplé parce qu'il fait pied droit, pied gauche, tête, ce qui est pas rien.
Complet.
Ouais,
c'est ce qui va dire d'ailleurs. Ouais. le modeste.
Contre la Yougoslavie, ils prennent le bouillon tactiquement. Michel Hidalgo va faire des changements à la mi-temps. Il va replacer Luis Fernandez au milieu de terrain, alors qu'il l'avait mis arrière droit, et ils finissent par l'emporter 3-2, pardon.
On a longtemps évoqué le fait que Michel Platini, ou que c'était les joueurs qui faisaient l'équipe. Bon, match face au Danemark, il y a Manuel Amoros qui se fait expulser. Il met un coup de boule à Jesper Olsen, donc du coup ça rebat un petit peu les cartes au niveau de la défense, et c'est comme ça que Luis Fernandez va se retrouver arrière droit contre la Belgique. La France met un match extraordinaire. Il y a pas à tortiller. On parlait de Platini qui marchait sur l'eau. Je veux dire, c'était ça. Hein. Tout ce qu'il réussissait, tout ce qu'il essayait, ça se transformait en or. Donc on gagne 5-0 contre une très très grosse équipe. Et les cadres de l'équipe de France vont dire à Michel Hidalgo, bon, bah, on reconduit la même équipe contre la Belgique, contre la Yougoslavie, pardon. Et Michel Hidalgo dit, mais moi je le sens pas. je sens pas, je ferais bien quelques changements. Dis, non, mais Michel, écoute-nous, remets la même équipe, tu vas voir,
ça va bien se passer.
Bon, à ce moment-là, Michel Hidalgo écoute ses gars, et Luis Fernandez va prendre un bouillon, mais bouillon Knorr, pendant quasiment toute une mi-temps. Et c'est effectivement à ce moment-là que Michel Hidalgo va rentrer à la mi-temps. Il va vraiment souffler ses joueurs. C'est l'une des premières fois où il leur rentre dedans, où il leur dit « j'aurais pas dû vous écouter ». Et là, il va demander à Thierry Tussaud de prendre la place de Luis Fernandez. Il va rentrer à sa place et effectivement, à partir de ce moment-là, l'équilibre va se faire au sein de l'équipe. Donc oui, la mythologie de « c'est les joueurs qui font l'équipe », c'était pas totalement vrai, même s'il y avait une petite part, on le voit bien dans cette histoire que je vous raconte. Oui, il écoutait ses joueurs, en tout cas, il était au plus près.
Voilà, je pense qu'ils étaient consultés, mais comme tous les entraîneurs, peuvent consulter leurs joueurs, ça me paraît assez normal, quoi.
On a aussi face à la Yougoslavie, il y a deux petits événements dans ce match-là. Il y en a un qui est malheureux puisque le soigneur de la Yougoslavie, voilà, va décéder d'une crise cardiaque lors du match. Et puis le deuxième, c'est qu'on a quand même un joueur qui est très jeune, qui s'appelle Dragan Stojković, qui fait déjà partie de l'équipe de Yougoslavie. Et quand on voit la composition de l'équipe de Yougoslavie, quand Francky me dit comme ça Danemark, Belgique, Yougoslavie, je crois qu'on se rend pas compte.
Danemark, c'est vrai.
Ils ont une équipe mais de fous furieux. Ils ont Preben Elkjær-Larsen, le bison qui est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il y a Laudrup, c'est très fort, il est encore très jeune à l'époque. Il y a Søren Lerby, il y a Frank Arnesen, il y a Søren Busk. Il y a Morten Olsen, il y a Jesper Olsen aussi, il y a des clients. Il y a franchement de sacrés clients dans cette équipe du Danemark. La Yougoslavie, bon, inutile de vous parler à nouveau de cette équipe parce que c'est une équipe qui nous a fait rêver. Ça a toujours été une équipe compliquée pour nous français et on s'en est rendu compte lors de ce match. Et puis même les Belges, on leur en a mis 5, mais... Bon, c'est un score qui est pas tellement révélateur, hein, parce que à l'époque, les Belges étaient vraiment très forts. D'ailleurs, en 86, Coupe du Monde 86,
ils finissent
quatrième, hein.
Ils vont dans le dernier carré. Ouais.
Oh. Alors la suite, qu'est-ce qui se passe la suite
La suite, la France se qualifie forcément pour la demi-finale et retrouve nos amis portugais. Là, c'est un match plutôt âpre et il me semble qu'à la fin du temps réglementaire, il y a 2-2, c'est ça?
C'est Domergue qui a 2-1 égalise à la toute dernière minute et c'est vrai, c'est ce que disait Hidalgo, en fait c'est il a senti les gens tu vois derrière l'équipe de France, en fait c'est à ce moment-là qu'il a senti qu'il y avait une ferveur, que il pensait que c'est là qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose à faire.
C'est parce que le match était au Vélodrome,
au Vélodrome avec
donc ça aide.
Un vent de folie. D'ailleurs, Fabien, ce qui est très amusant, c'est que même le réalisateur s'est trompé, parce que quand Domergue a marqué, il a mis Michel Platini. Et on avait tellement l'habitude de voir un Platini marqué qu'on avait complètement oublié que c'était Jean-François Domergue.
Et donc, on joue les prolongations. Le match est tendu, forcément, il y a une place en finale, et là, ça commence à cogiter aussi, puisque, on se souvient tous de la demi-finale de 82. Et dans les dernières minutes du match, il y a Tigana qui récupère un ballon, qui fait une percée, mais, c'est assez fantastique. Ouais, vraiment, c'est impressionnant.
Ah oui, il a du coffre, hein.
Ah oui, c'est vraiment très très fort. Et qui fait un centre ras de terre. Et là, il faut vraiment regarder ce but, parce que je l'ai encore regardé cet après-midi. C'est là qu'on voit la grandeur de Michel Platini. C'est qu'il se permet de faire un amorti, de plat du pied, qui élimine du coup deux défenseurs qui revenaient sur lui, et de mettre le but, mais fait l'amorti dans les 6 mètres. C'est assez dingue. Je sais pas si vous avez vécu ce but comme moi, mais moi ça me paraît fou, quoi.
C'était vraiment
d'autant que sur ces dernières minutes, pareil, pour avoir revu, Et là, pour le coup, je vais prendre la cause des Portugais. C'était pareil, quoi. Ils auraient pu, ça attaquait. C'était de l'attaque défense en permanence. Oui. Et là, effectivement, on était, parce que je crois que juste avant que Tigana prenne le ballon, il y a une petite occasion pour les Portugais où le ballon, il rase le poteau. Et voilà. Et après, les Français reprennent le 6 mètres et rejouent. Et Tigana fait sa percée. Mais on a bien senti que là, c'était à tout va de chaque côté, quoi.
Mmh. Moi, ce dont je me souviens à l'époque, c'est très amusant, mais le débordement côté droit de Chalana, qui va mettre le bouillon à son vis-à-vis, qui est Domergue d'ailleurs, il va adresser un super centre à Jordão, et Jordão donc va faire une reprise écrasée qui va rentrer directement dans le but. C'est un super joli but de la part de Jordão, qu'un. On peut le dire, Manu, un grand attaquant portugais. Hein, c'est à l'époque, c'est lui et Fernando Gomes qui se tirent un peu la bourre
sur le
classement du buteur. Et puis, il y a aussi un autre paramètre qui rentre en ligne de compte. C'est que de plus en plus, on voit que Joël Batz est en train de prendre une grande dimension. Parce que même si on a pris des buts, il va faire des arrêts assez décisifs. Et ça, je me souviens aussi de ce gardien qui est Joël Batz, qui tout à coup devient le gardien de l'équipe de France. Hidalgo a eu longtemps beaucoup de difficultés à trouver sa voilure au niveau du portier, et là ça y est, avec Joël Batz, on sent que il a trouvé son gardien. Francky, tu nous enchaînes sur ça.
Ouais,
qui
est passé
à l'Espagne, qui est pas une grande finale, hein, clairement.
Non, qui est pas une grande finale, bah c'est l'esthétisme contre la rigueur défensive de l'Espagne, qui ont gagné tous leurs matchs 1-0, je crois. C'est dur. C'est âpre. Ils essaient de faire péter les plombs à Luis Fernandez, hein, qui est d'origine espagnole, et il l'insulte de traître tout au long du match. Mais il tient le coup, il craque pas parce qu'il est quand même très impulsif. Hein.
Ah oui.
Et coup franc 18 mètres sur une faute sur la combe, et là le maître artificier qui marche sur l'eau, Platini, s'en charge. Le ballon est tiré à mi-hauteur, plutôt mou. On se dit qu'il n'y a pas de souci pour le gardien. Et là, contre toute attente, le gardien Arconada le relâche dans ses buts. C'était un bon gardien d'ailleurs. Hein, c'était vraiment un très très bon gardien. Ouais. Mais il fait une erreur et 1-0 pour la France. Le match se poursuit. Tu as raison, Yolan, c'était pas un très très grand match. Et Bruno Bellone, dans les dernières minutes du match, conclura cette finale par un joli 1-1 et un lob sur Arconada. Donc c'était décidément pas sa soirée. Et victoire de la France 2-0. Première victoire d'un sport collectif en France. Hein, première victoire internationale.
Alors, pour rebondir sur le...
C'est
faux, Francky, puisque avant cela... Nous étions champions du monde des matchs amicaux. Il faut le savoir, puisque ce que je veux dire, c'est que la période où l'équipe de France est qualifiée était qualifiée d'office pour l'Euro, on a fait quelques matchs amicaux et en fait, ça s'est souvent traduit par des victoires. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a dit, mais en fait, on est les champions des matchs amicaux.
Vas-y, Fabien.
Oui, c'était par rapport au collectif. Moi, j'avais trouvé une anecdote qui était super, que Michel Hidalgo avait raconté un peu plus tard. 10 minutes avant la fin, Batiston se dit « Tiens, j'ai un peu mal à la jambe. » Il demande à l'entraîneur, il dit « Sors-moi. » Il sort, et puis là, Michel Hidalgo lui dit « Bah écoute, qu'est-ce que t'as ?» Il dit « Bah j'ai mal derrière la cuisse. » Et puis lui dit « Bah là, en fait, j'ai rien. » Mais il dit « Je veux que Manu Amoros, il puisse faire son match. » Et ça, je trouve ça, c'est énorme. En fait, c'est là que tu vois... C'était vraiment l'esprit d'équipe, parce que faire rentrer alors que tu gagnes que 1-0, hein, on est d'accord, puisque Bellone, c'est vraiment la fin. Faire jouer, je sais pas si quelqu'un serait capable de le faire encore aujourd'hui, avec les enjeux qu'il y a aujourd'hui, mais c'était pour moi, c'est énorme.
Il a dit « Je voulais que Manuel Amoros ait sa part de finale
voilà. ».
Et Michel Hidalgo a dit « Un joueur qui dit ça, c'est un seigneur ».
Voilà.
Et c'est vrai que... Quand on considère que ces joueurs sont des seigneurs, c'est que soi-même, on est aussi un seigneur. Il y a une belle anecdote aussi par rapport à ça. C'est Bruno Bellone qui dira « C'est le plus beau trophée que j'ai reçu de ma vie ». C'est Michel Platini qui vient, qui lui met la main sur l'épaule, qui dit « Tu vois, j'ai mis 9 buts, mais je suis jaloux parce que le but que j'aurais voulu marquer, c'est celui que t'as mis.
Ah, »
Et
oui.
Bruno Bellone, il a dit « Ce trophée-là, il est dans ma tête ». et celui-là on me l'enlèvera jamais parce que c'est le plus beau quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs pour la petite histoire, quand on a demandé à Bruno Bellone, évidemment, moi j'aime beaucoup Bruno Bellone, c'est un joueur qui était saignant, qui s'il avait pas eu toutes ses blessures, aurait certainement eu une toute autre carrière. Et on lui a posé la question, on lui a dit quel est le plus beau souvenir de votre carrière. Et il a dit le plus beau souvenir, il dit bah c'est d'avoir joué avec Michel Platini. C'était extraordinaire. Donc c'est vrai que on peut le dire aussi. Est-ce que Michel Hidalgo aurait eu cette destinée s'il n'avait pas eu un génie comme Michel Platini dans son équipe?
Non, je pense qu'après je vais rebondir sur ce que Michel Platini a dit d'Hidalgo. Et ça va reprendre, ça va vous dire quelque chose. Platini a dit Hidalgo, c'est un exemplaire d'humanité mêlant la bienveillance de l'éducateur et l'affection d'un père. Et quand tu as ton joueur qui dit ça d'un entraîneur, je pense que on l'a bien compris. En fait, les deux étaient bien, si tu veux, solidaires entre eux. Et je pense que c'est ça qui a créé la cohésion d'équipe.
Ils étaient liés, et puis je pense que toutes les équipes qui gagnent, elles ont un crack.
Bah oui.
Elles ont un crack, et Michel Platini, c'était le crack de l'équipe de France. Moi, ce que j'ai apprécié dans leur relation, c'est que Michel Hidalgo a réussi à faire comprendre à Michel Platini, tout crack qu'il était, qu'il devait se mettre au service de l'équipe, et que en contrepartie l'équipe se mettrait aussi à son service.
Ouais.
Et je trouve que ça s'est fait en très bonne intelligence, et ça c'est assez remarquable.
Moi, ce que je trouve très fort de la part de Michel Hidalgo, c'est qu'il a soutenu son numéro 10. Faut quand même pas perdre de vue, on l'a vu dans le reportage de Canal qui était vraiment très très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié ce reportage là sur Michel Platini. Platini fait un match au Parc des Princes contre Stuttgart. Bon, la France perd ce match et Platini joue dans un rôle qui est pas sien, il est un peu plus reculé et il va se faire siffler par le public du Parc des Princes avec des noms d'oiseaux qui sont vraiment indignes d'un joueur de sa trempe. Hidalgo lui il va le soutenir. Et il va dire les cris, les insultes envers Platini ne sont pas méritées. Michel, on a besoin de lui et lui il va continuer finalement à entretenir cette affection. Je trouve que la force d'Hidalgo, c'est d'avoir réussi à être un affectif, d'écouter ses joueurs. Vous savez, c'est Albert Rust qui disait, moi je comprends pas. Il est venu me voir à l'Euro et discuter pendant une heure et demie avec moi dans ma chambre quasiment pour m'expliquer pourquoi il me ferait pas jouer. Et Albert Rust dit il aurait pu gagner du temps, je savais très bien que j'étais moins fort que Joël Batz. Mais non, il voulait véritablement prendre le temps de pouvoir discuter avec les uns et les autres. C'était vraiment quelqu'un d'humain et ça transpire aussi dans cette manière qu'il avait de parler. Cet amour du mot, du verbe, même en tant que commentateur, c'était agréable, c'était super et agréable. Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur Michel Hidalgo?
Pour moi, c'est l'esprit bleu, mais l'esprit bleu dans tout ce qu'il a de beau, en tout cas moi en tant qu'enfant, quand j'étais enfant, c'est le panache, l'esthétisme et le foot pour le foot, quoi.
Bah moi, ce que je retiendrai d'Hidalgo, c'est effectivement pareil, cet esprit d'équipe qu'il a su inculquer à l'équipe de France de manière à obtenir des résultats. Donc puisque en 82, ils font une demi-finale et ils gagnent l'Euro qui suit. Donc voilà. Et une petite chose que j'aimais beaucoup, c'était effectivement la façon dont il commentait les matchs à l'époque où il était sur Canal. Ce côté, il avait un journaliste à côté de lui qui était tout le temps peut-être un peu excité, et lui, il avait toujours cette voix calme et posée qui racontait l'action d'une très belle manière. Donc ça aussi, je le garderai.
J'aime beaucoup le fait que tu dises qu'il racontait. T'as même pas dit qu'il commentait.
Non, non.
En fait, on avait l'impression qu'il racontait
tout
une histoire.
Tout à fait.
Tout à fait d'accord avec toi. Cette poésie dans la voix. Fabien?
Bah moi, je finirai avec les mots de Michel Hidalgo qui disait que il a jamais parlé à ses joueurs de résultats. Il leur a toujours dit de penser au jeu et que les résultats viendraient d'eux-mêmes. Voilà. Pour moi, c'était un sens collectif, une personne qui était vraiment très très forte pour écouter et trouver la cohésion d'équipe et c'est pour ça qu'il a pu emmener une équipe qui était pas forcément elle avait un beau carré magique mais qui était pas forcément la plus forte non plus sur le papier, mais il a pu l'emmener très loin grâce à la solidarité de tout le monde.
Ben moi j'ai commencé le premier podcast en expliquant qu'il y avait avec l'arrivée de Michel Platini un nouvel espoir, hein, comme Star Wars. c'est le nouvel espoir, l'arrivée de Platini. Ensuite on a 1982, la défaite face à l'Allemagne. Bon bah c'est l'Empire contre-attaque. Finalement on explique à Michel Platini qu'il est un Jedi, mais il est pas encore tout à fait un Jedi. Il doit se couper la main pour pouvoir réussir à gravir les échelons. Et puis in fine, bah c'est le retour du Jedi. Et là, c'est le fils prodige. C'est Hidalgo qui emmène son Michel Platini sur le toit du monde et il devient champion d'Europe. Et effectivement, c'est le premier titre de l'équipe de France en Sport Coupe. Puis sera suivi après avec les JO Olympiques à Los Angeles. C'était le podcast sur Michel Hidalgo. On voulait surtout pas passer à côté de ce grand homme, un homme qu'on aime, un homme qui nous a fait rêver et qui a porté un football qu'on aime, un football vintage. On vous remercie d'être à l'écoute. On vous remercie de nous suivre sur la page Le FC Vintage. N'hésitez pas à mettre des photos. Continuons à être dans la bienveillance, à être dans la camaraderie et puis continuons à supporter ce foot vintage. Salut à tous.
Salut tout le monde.
Salut à tous.